France Inter.
Bonjour, ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée sur France Info, la télé, et en partenariat avec le journal Le Monde. Cette fois, la campagne des élections européennes va bel et bien pouvoir commencer. Toutes les têtes de liste ont été officiellement désignées et pour l'instant, il n'y a qu'un seul thème qui réussit à s'imposer, la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron, dans la presse ce matin encore, rappelle que des opérations sur le terrain pourraient peut-être un jour devenir nécessaires. Alors tous les partis politiques sont d'accord pour dire qu'il faut soutenir l'Ukraine. Tous, enfin presque, le RN a décidé de s'abstenir sur le sujet. Quant aux 75 députés insoumis, ils ont voté contre la résolution de soutien à l'Ukraine débattue cette semaine à l'Assemblée. Ont-ils choisi le camp de la capitulation face à la Russie ? Manon Aubry, tête de liste LFI aux prochaines élections européennes, qui a lancé sa campagne hier, est notre invitée ce midi dans Questions politiques, en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter.
Bonjour Manon Aubry.
Bonjour Karine Bécard, bonjour à toutes.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout effectivement pour vous interviewer, Nathalie Saint-Cricq, Françoise Fressoz. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
De France Télévisions et du journal Le Monde. On va commencer par regarder vos images de la semaine. À toutes les trois, qu'est-ce qui a marqué, selon vous, l'actualité ? Manon Aubry, vous êtes notre invitée, vous êtes la première à commencer. Qu'est-ce que vous avez sélectionné ?
J'ai choisi une photo d'une mobilisation dans le lycée Blaise Sandrard à Sevran. Vous, pour ceux qui nous écoutent à la radio, je vais décrire la photo.
Avec plaisir.
Il y a marqué dessus, c'est une jeune femme qui tient une pancarte. Mm-hmm. J'ai pas de table pour écrire, mais j'ai une bouche pour le dire. Et ça a donné lieu à une très large mobilisation en Seine-Saint-Denis, dans ce lycée et ailleurs, pour dénoncer à la fois les conditions de travail. Ils ont le chauffage qui ne marche pas, l'ascenseur qui ne fonctionne pas, ils ont des fuites d'eau, mais aussi le manque de personnel avec des enseignants qui ne sont pas remplacés. Mmh. Des AESH, assistants pour les enfants en situation de handicap. Mmh. Qui ne sont pas en nombre suffisant. Et ce mouvement spontané dans ce lycée à Sevran a donné lieu à un très large mouvement, assez historique, en Seine-Saint-Denis. Il demande plus de 350 millions d'euros d'urgence pour faire face aux besoins du monde éducatif. Et je trouve qu'on en a très peu parlé dans la semaine. Il y a eu des taux de grève historiques qui donnent à voir la nécessité de la mobilisation pour préserver nos services publics à l'heure, et on en parlera j'espère dans cette émission aujourd'hui, à l'heure où le gouvernement prévoit de faire des économies historiques, un plan d'austérité historique, 10 milliards d'euros cette année, 20 milliards d'euros l'année prochaine, en application de nouvelles règles budgétaires européennes, et je le dis, ce sera probablement la plus grande saignée sociale. Ce sont nos services publics, nos hôpitaux, nos écoles qui vont en premier payer le prix, puisqu'on parlera des élections européennes juste après. Moi, je souhaite que l'élection du 9 juin soit un référendum contre ce grand plan d'austérité. Et pour terminer sur l'affiche que l'on voit, j'ai plus de table pour écrire, mais j'ai une bouche pour le dire. Eh bien, je veux dire aux gens et à ceux qui sont mobilisés, vous aurez un bulletin de vote pour le dire le 9 juin prochain.
Bon, je vois qu'on est déjà rentré dans le match. Françoise, quelle est votre image de la semaine ?
Alors, moi, j'ai pris Pierre Moscovici. Mm-hmm. Ancien ministre de François Hollande, devenu premier président de la Cour des comptes, et qui, mardi, fait une allocution solennelle en présentant le rapport public annuel. Et en fait, c'est vraiment un coup d'avertissement sur la dette publique qui a progressé de 800 milliards d'euros, excusez du peu, depuis 6 ans, et qui commence à coûter de plus en plus cher, puisqu'elle pèse chaque année 54 milliards d'euros, alors qu'elle n'en pesait que 20 milliards il y a quelques années. Tout ça pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt ont augmenté. Et donc, le cri, c'est il faut peut-être arrêter de se doper tous à la dépense publique, parce qu'à un moment, on va être étranglé par la charge de remboursement. Alors, je pense que ça signe un vrai changement d'époque. On avait déjà le contexte de la guerre en Ukraine, pas très gai. Là, on a vraiment un coup d'avertissement sur la dette publique. Et on voit d'ailleurs que ça ouvre une nouvelle séquence qui est même plus la fin du macronisme, mais le début d'autre chose, puisqu'on a une compétition à droite sur à qui sera aujourd'hui le plus sérieux. Compétition qui vient de s'ouvrir entre Édouard Philippe, qui était déjà sorti du gouvernement depuis quelques temps et qui dit attention aux dépenses publiques, et maintenant rejoint par Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui dit l'État-providence est en jeu, est en question. Maintenant, il faut passer à un État protecteur. Le tout gratuit, ça ne marche plus. Bref, on a déjà la tonalité de la prochaine campagne. Et ce qu'on peut observer aussi, c'est que la gauche n'est pas tellement entendue, enfin ne s'exprime pas beaucoup sur le sujet.
Je viens à l'instant d'en parler.
Et vous dites pas la même chose.
Et je vois que vous prenez le contre-pied de ce immédiatement.
Que vous avez dit. Exactement. Mais on va attendre le cœur de l'interview pour l'instant.
Et François, ce qui attend avec impatience la sortie du nouveau livre de Bruno Le Maire
la
en
voix française
sur ce sujet.
Une voix française ou...
Exactement.
Nathalie, c'est quoi?
Moi, ça peut sembler anecdotique, c'est une photo, photo de l'occupation, j'emploie les termes qui ont été utilisés par les étudiants de Sciences Po.
Qu'est-ce qu'on voit?
L'occupation de l'amphithéâtre Boutmy, qui est une institution, par des jeunes, des étudiants donc, soutenant...
Des étudiants pro-palestiniens, oui voilà.
Absolument, soutenant la cause palestinienne. Pour déplorer... Alors, il y a manifestement une jeune femme qui était connue comme appartenant à l'Union des étudiants juifs de France, qui dit qu'elle n'a pas entendu directement un certain nombre de propos, mais qui aurait été empêchée de rentrer parce qu'il aurait redouté qu'elle filme avec son iPhone et que filmant, les gens soient... Bon, juste pour
compliqué,
dire que...
Compliqué, hein, à démêler.
Tout ça, manifestement, me semble, plus un certain nombre d'empoignades assez désagréables. D'abord, je suis assez étonnée que Sciences Po, ce qui n'est pas le temple de la sagesse ni de l'intelligence forcément, mais qui est plutôt, a priori, la temple de la réflexion pour après, soit dans un endroit où on est pro ou contre et où on ne peut pas discuter... Deux, par le danger de cette importation, parce que finalement, quand on est à l'extérieur, on a peut-être plus d'intelligence et de fraîcheur intellectuelle pour essayer de voir quelles sont les solutions pour un État, deux États, et pas simplement proférer des espèces de phrases sur de la mer au Jourdain ou de la mer à la, de la rivière à la mer, et de voir finalement que Sciences Po, depuis quelque temps, est devenu un endroit extrêmement idéologisé et que ça peut être un peu effrayant si ça forme des futurs hauts fonctionnaires qui, d'a priori, doivent servir une cause et non pas prendre fait et cause pour quelque chose de façon aveugle. Et j'ai parlé avec des étudiants, avec une des leaders des mouvements palestiniens, qui manifestement me semble assez caricatural, c'est que c'est non seulement pro-palestinien, mais anti. Israélien.
Alors je vois Manon Aubry s'agiter sur Sciences Po. Vous sortez de Sciences Po, hein. D'ailleurs vous avez été dans la même promo que Gabriel Attal. Vous voulez réagir?
J'y enseigne aussi.
Vous y enseignez également, je ne le savais pas. Vous voulez réagir à ce que
oui,
vous
dites, parce que je crois qu'on a l'exemple d'un véritable emballement médiatique. Vous l'avez dit, Nathalie Saint-Cricq, l'étudiante en question a dit qu'elle n'a pas entendu de propos antisémites et qu'elle a pu entrer dans l'amphithéâtre. Et je pense que l'antisémitisme est un sujet qui est suffisamment sérieux, suffisamment grave. C'est un délit d'ailleurs, pour ne pas voir des antisémites là où il n'y en a pas. Et je vois que systématiquement, vous parliez à l'instant de caricature, systématiquement, ceux qui défendent pas la cause palestinienne, mais la paix à Gaza et la paix en Palestine sont caricaturés. Parce que nous avons face à nous un carnage sans précédent. Il est mort à Gaza plus d'enfants en 4 mois que pendant 4 ans dans l'ensemble des conflits internationaux. Et moi, je suis fière que les étudiants et la jeunesse de notre pays se sentent mobilisés, se sentent concernés par le risque de génocide en cours dans la bande de Gaza.
Aussi le 8 octobre,
et vous savez, moi, cet amphi Boutmy, je le connais bien. Il se trouve qu'à l'époque où j'ai étudié, je l'ai aussi occupé. À l'époque, se mobiliser à la fois contre la réforme des retraites, mais aussi contre l'augmentation des frais d'inscription. Et je suis fière que la jeunesse de notre pays, et y compris ceux que l'on forme à être soi-disant l'élite de demain, eh bien, se sentent mobilisés. Et à Sciences Po, moi, j'y ai enseigné le droit international. Eh bien, je vois qu'il y a des gens qui défendent le droit international et qui dénoncent les crimes commis à l'heure actuelle par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et je regrette vraiment que le Premier ministre, vous savez, Gabriel Attal, il s'est précipité pour venir à Sciences Po. S'il veut aller voir des universités, qu'il aille dans les facs, voir la précarité des étudiants. Oui, je pense que son temps serait beaucoup mieux utilisé.
On va faire la parenthèse, parce que ce n'est pas l'événement de la semaine. Exactement. Simplement... Le 8 octobre, il aurait pu y avoir une gigantesque manifestation de soutien. Elle n'est pas venue. Et un mail envoyé par la direction.
Il y a eu une minute de silence fait à Sciences Po.
Demandé par la direction.
Oui, et où est ce mail envoyé par la direction pour les crimes qui sont commis à l'heure actuelle? Vous voyez, c'est le deux poids, deux mesures.
Et dernière chose, je pense que les étudiants ont toujours été là pour discuter, pour débattre. Je suis pas certaine qu'avec un keffieh entouré autour de la tête, ce soit le meilleur endroit.
Mais quel est le problème avec un keffieh, Madame Saint-Cricq?
On ne voit pas le visage des gens, on les se mettre en face et de parler.
Mais c'est normal, parce que si vous savez que si en défendant la cause palestinienne, vous allez être pris en photo, en vidéo, calomnié et caricaturé sur les réseaux sociaux, oui, il y a un problème. Donc moi, ce que je souhaite, c'est en effet qu'on puisse avoir un débat. Mais j'appelle la jeunesse de ce pays à défendre les droits humains, à défendre le droit international et à se mobiliser pour cesser le feu dans la bande de Gaza et prendre des sanctions à l'égard du gouvernement de Benjamin Netanyahou.
En tout cas, vous faites toutes les deux la démonstration que parler de ce sujet calmement et sans tension, ça reste extrêmement compliqué dans notre pays.
Non, c'est possible, c'était très calme, je pense.
C'est le pluralisme politique, donc il faut être respectueux de cela. Mais j'ai un désaccord très profond. C'est que je pense qu'aujourd'hui, en conscience, choisir de s'abstenir ou de voter contre un soutien à l'Ukraine, c'est pas choisir la paix. C'est choisir la défaite.
Alors ça, c'était Emmanuel Macron, jeudi soir, répondant aux questions de TF1 et de France 2, notamment sur un possible envoi de troupes françaises en Ukraine. Propos qu'il réitère, je le disais en introduction, dans la presse ce matin, je le cite, il dit peut-être qu'à un moment donné, il faudra bel et bien avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient. Qu'est-ce que vous répondez ce midi au président Manon Aubry ?
Que la vraie défaite, ce serait la guerre. Et que les propos tenus par le président de la République depuis une semaine sont irresponsables et inefficaces. Irresponsable parce que il ouvre la porte à l'envoi de soldats pour aller au front, sur le front ukrainien. Je ne suis pas d'accord.
Il dit qu'il peut y avoir des troupes sur sol.
Il dit qu'il ne faut pas l'exclure et il a pris cette métaphore que personne n'a vraiment compris cette semaine dans son interview en disant bah vous allez bien vous lever à un moment. Eh bien, ça veut dire qu'il y a un moment, on va envoyer des troupes. Et je le dis, et je l'affirme, je ne suis pas d'accord. Et je vous le disais, c'est non seulement irresponsable, mais c'est aussi inefficace, parce qu'il a été désavoué par l'ensemble de ses alliés sur la scène européenne. Et puisqu'il parlait d'ambiguïté stratégique...
Pas tous.
Personne.
Pas les États baltes.
Personne.
Pas la République tchèque.
Aucun État n'a dit le président de la République française, Emmanuel Macron, a raison. En revanche, les États qui se sont exprimés sur la scène européenne, et je vous le dis aussi en tant que députée européenne, ont dit que c'était aujourd'hui hors de question. Donc la parole
oui,
de la France.
Hors de question, mais il le dit
la
pas,
parole diplomatique il le dit pas de la France. Mais il prépare les esprits aujourd'hui encore, quand, dans l'article du Parisien, vous l'aviez dit, il en remet une couche, comme si finalement la pommade qu'il avait passée cette semaine n'avait pas été bien comprise. Oui, elle n'est pas comprise parce que je ne crois pas aujourd'hui que l'opinion publique soit prête à aller se lancer dans une guerre face à une puissance nucléaire avec la Russie.
Est-ce qu'il n'est pas temps, malgré tout, de freiner la Russie ? On a connu l'épisode la Géorgie en 2008, on a connu l'épisode la Crimée en 2014, on a connu les accords de Minsk qui n'ont pas été respectés par la Russie. Est-ce qu'on continue comme ça longtemps ? Est-ce qu'il n'est pas le moment là de dire stop à Vladimir Poutine ? C'est ça qu'il dit Emmanuel Macron, non ?
Je suis d'accord pour dire stop à Vladimir Poutine, mais la question est de savoir comment on le fait. D'abord, sur l'envoi d'armes, vous aurez remarqué que la France n'a pas tenu toutes ses promesses. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est de penser, est-ce que à terme, il y aura une issue militaire à ce conflit ? Est-ce qu'on pense qu'on va réussir à remporter le match d'un point de vue militaire, sachant que le conflit dure déjà depuis 2 ans, qu'il a fait plus de 200 000 morts côté ukrainien et côté russe.
Mais Manon Aubry, ça veut dire
pour aller au bout de ma démonstration, est-ce qu'on pense sérieusement que face à un pays qui compte 145 millions de personnes, qui est la Russie, qui est d'autant une armée de réserve pour nourrir l'armée russe, d'un pays qui possède la puissance nucléaire. Est-ce qu'on pense véritablement qu'on va gagner le bras de fer nucléaire ?
Moi, je le dis... On a décidé qu'on l'avait perdu dès le début.
Désaccord, non.
C'est-à-dire que la dissuasion, c'est quoi pour vous la dissuasion ?
Je n'ai pas dit qu'il fallait laisser Vladimir Poutine arriver jusqu'à Kiev.
Et d'ailleurs, ça fait 2 ans. Écoutez-vous, s'il vous plaît, mesdames.
Mais il ne faut pas me poser plusieurs questions à la fois.
Je me demande aussi...
Ça fait 2 ans que ça dure. La résistance, elle est là. Vous dites au fond, on est trop faible, on va lâcher le truc.
Est-ce que j'ai dit qu'il fallait lâcher ? Je dis qu'il n'y a pas.
Qu'est-ce que vous dites alors ?
Si vous me laissez répondre à votre question, vous aurez votre réponse. Je dis qu'il n'y a pas d'issue militaire à ce conflit. Jean Jaurès disait on ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre. Et je pense qu'il avait raison. On ne connaît pas d'autre issue à un conflit qu'un accord
mais
de paix.
Que vous
et oui, il faut faire la paix,
que vous
même
dites
y compris.
Aujourd'hui, on met autour d'une table Vladimir Poutine et les Ukrainiens qui veulent pas aller autour d'une table parce qu'ils savent qu'ils vont se faire écraser par
la
Russie.
Mais vous savez, même Monsieur Zelensky avait dit lui-même qu'il faudra envisager à un moment de se mettre
mais
autour d'une table.
Mais peut-être à un moment, mais c'est pas aujourd'hui.
Quand sera le meilleur moment ? Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on aura fait mourir 100 000 personnes de plus, on aura envoyé des millions d'obus de plus. C'est ça que vous voulez ? Une guerre généralisée ? Quelle autre alternative vous avez ? Guerre qui va durer des années encore, qui va épuiser l'ensemble de la population ukrainienne, l'ensemble de nos ressources en matière militaire. On n'a même pas aujourd'hui les ressources militaires. Vous le voyez, notre propre industrie française est dépassée. Donc oui, moi j'assume de dire qu'il n'y a pas d'autre issue.
S'il vous plaît. Je rappelle les règles du jeu. J'aimerais bien que la parole tourne et que tout le monde s'entende et que tout le monde puisse poser des questions. Donc je donne la parole à Nathalie Saint-Cricq qui la demande depuis un petit moment. Donc, question de Nathalie Saint-Cricq et réponse
ne veut jamais la guerre.
De Manon Aubry. Merci personne. Beaucoup.
Il est acquis que Jean Jaurès a dit ça, mais qu'il a été tué le 31 juillet 14. On ne sait pas comment les choses auraient tourné si la guerre avait été lancée. Dernier mot. Qu'est-ce que vous... Pour vous, la dissuasion, c'est quoi? Il y a une logique qui est manifestement que tout le monde respecte, qui est de préparer la guerre pour avoir la paix. C'est-à-dire, en gros, de faire une sorte de bras de fer plutôt que de capituler tout de suite. Qu'est-ce qui ferait que Vladimir Poutine arriverait à une table de négociation, prendrait son avion ou le train et viendrait quelque part, alors que tout ce qu'il nous montre depuis le début est rigoureusement... On ne va pas aller chercher avec des policiers.
Non. Mais le Vladimir Poutine a dit lui-même, et en tout cas c'est les propos qui ont été rapportés par le président de la République, Emmanuel Macron, lors de la rencontre avec les chefs de parti la semaine dernière, mon collègue Manuel Bompard y était, Emmanuel Macron disait lui-même que la Russie était prête à un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, ce n'est pas la fin de la guerre, je suis d'accord avec vous. Mais là, vous le voyez qu'on a le choix, soit d'une escalade militaire qui peut être extrêmement dangereuse, un affrontement de deux puissances nucléaires, même pendant la guerre froide, ça ne s'est pas vu, on a réussi à l'éviter.
Parce que
donc on a soit cette escalade militaire, en effet, que vous décrivez bien avec vos mains, qui est une escalade, soit trouver le chemin de la paix. Et ce chemin de la paix, on démarre par un cessez-le-feu, puis ensuite on va sécuriser par exemple les 15 centrales nucléaires. Je rappelle que ce conflit se déroule autour de 15 centrales nucléaires, ce qui fait porter un risque sur l'ensemble du continent. Je n'ai pas envie de répéter la situation de Tchernobyl, donc on pourrait sécuriser, comme on le demande depuis des mois et des années, les 15 centrales nucléaires, mettre des casques bleus par exemple. S'il devait y avoir une opération de paix à laquelle la France doit participer, je pense que ça doit se faire uniquement dans le cadre du droit international, le cadre légitime, par exemple d'une mission de sécurisation de casques bleus. Mais pardon, moi je suis la défenseuse du droit international, ça peut vous paraître comme ça un truc à balayer du revers de la main, mais c'est dans ce cadre de coopération que la France doit agir. Je pense que la France doit prendre le leadership du camp de la paix. Alors c'est peut-être pas le plus populaire, mais en tout cas c'est sa responsabilité.
Revenons à ce qui s'est passé très concrètement, parce que là on est en train de monter très haut, on est dans de la politique fiction. Ce qui s'est passé, c'est cette semaine à l'Assemblée nationale, les 75 députés insoumis votent contre un soutien à l'Ukraine.
Alors, permettez-moi de vous reprendre, ils ne votent pas contre un soutien à l'Ukraine. La
ils
question qui était posée, c'est
la résolution
un soutien
de soutien
Madame
Mécart, à l'Ukraine.
Vous savez combien, moi, de résolutions sur l'Ukraine j'ai voté au Parlement européen? Alors, puisqu'on est en campagne européenne, c'est...
Une cinquantaine, je crois.
Vous n'êtes pas très loin. 32, pour être très exact. Donc, j'ai voté à 32 reprises le soutien à l'Ukraine. Et chacun pourra aller vérifier. Et d'ailleurs, il y a un deux poids, deux mesures. Parce que, s'agissant de la situation à Gaza, il n'y a eu que 3 résolutions. Et je peux le regretter. Donc, la question qui était posée n'était pas celle, ni celle d'un soutien à l'Ukraine, ni celle même de l'accord entre la France et l'Ukraine. Je rappelle que cet accord avait été signé par le président de la République. Et donc, même si l'Assemblée nationale votait non, il aurait été quand même en vigueur. C'était une discussion sur la base, pour ceux qui font un peu de droit français, de l'article 50-1 de la Constitution, qui était sur le discours de politique présenté par Gabriel Attal. Et oui, nous assumons de dire...
Il y a eu un vote, vous avez voté contre, et donc du coup, la question que je vous pose, parce que je vais essayer de vous poser
la question... C'est pour ça que je me suis permise ces précisions. On n'a pas voté sur le soutien à l'Ukraine, on n'a pas voté sur l'accord, on a voté sur le discours du Premier ministre, Gabriel Attal, et donc sur la stratégie française en Ukraine. Il se trouve, et je viens de vous l'expliquer en détail, qu'on a un désaccord avec la stratégie posée par le président dans la République,
voilà,
qui est, je pense,
compris.
Une stratégie
et donc ma question,
va en guerre. Et j'ai aussi un autre désaccord, c'est l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, qui était posée en filigrane, parce que ça contribuerait à un dumping, une concurrence injuste, en termes sociaux notamment, parce que le salaire minimum en Ukraine est à moins de 200 euros, et je pense que ce n'est pas réaliste de faire entrer, à ce stade en tout cas, tant qu'il n'y a pas d'harmonisation de l'Ukraine dans l'Union européenne.
Le but quand même, c'est pas que vous disiez tout ce que vous avez à dire, mais que vous essayiez de répondre à nos questions. Donc ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez fait le choix de la capitulation?
Absolument pas.
Alors expliquez-nous.
Absolument. Je pense que
c'est le thème d'Emmanuel Macron ce matin dans la presse. Il dit, vous avez fait le choix de la capitulation pour l'Ukraine face à la Russie.
Mais je vais vous dire, capituler, ce serait au contraire se lancer à corps perdu dans une guerre dont on ne connaît pas la fin.
On ne connaît jamais la fin de la guerre.
Oui, mais
quand les gens ont résisté.
Mais quelle est la solution? On va passer de 2% à 3%, à 5%, à 8% du PIB consacré en dépenses militaires. On va engager notre puissance nucléaire. Et donc, là, oui, vous pouvez me reposer la question autant de fois que vous le voulez. Pour le coup, je ferai la même réponse. Non, mais que vous ayez un désaccord avec moi, naïvement, je pensais que les journalistes, leur rôle, c'était de poser la question, pas d'avoir un avis, mais vous avez tout à fait le droit d'avoir un avis. En revanche, oui, moi, j'assume de défendre le camp de la paix. J'assume de dire qu'il n'y a pas d'autre issue qu'une issue diplomatique. J'ai pas l'habitude de citer le pape, mais je vais le faire ici. Même le pape dit qu'il faut, un moment, trouver le chemin de la négociation. Et je pense que c'est une voie raisonnable. On peut pas dire que le pape soit pro-Poutine ou alors...
Non, mais attendez, on n'est pas pour la paix ou pour la guerre. On dit non, simplement...
On a un désaccord sur le chemin pour retrouver la paix.
Un pays non démocratique, on va encore le voir ce soir.
Vous savez, j'ai aucune acquaintance pour Vladimir Poutine.
Vous trouvez aussi que c'est une puissance moyenne ou pas, comme le chef de l'État ce matin dans la presse? C'est une puissance moyenne ou pas la Russie?
C'est une puissance qui a de la force quand même, parce qu'ils ont la puissance nucléaire. Mais j'ai aucune sympathie pour le régime de Vladimir Poutine. Ce n'est absolument pas une démocratie.
Et Jean-Luc Mélenchon, par exemple, félicitera à la fin du week-end, quand il sera réélu?
Vous savez, Jean-Luc Mélenchon, quand il est allé en Russie en 2008, c'était pour aller rencontrer des opposants. En 2022, nous avons accueilli plusieurs opposants à la guerre à Vladimir Poutine, des opposants y compris qui ont été emprisonnés par Vladimir Poutine, nous les avons accueillis en France. Je pense qu'aucun de nos adversaires politiques ne peut en dire autant. Donc moi, j'ai rien à cacher.
Rien à se reprocher là-dessus. Hein.
Mais j'ai parlé de personne. J'ai juste dit que nous, notre position, elle est extrêmement claire. On n'a jamais défendu Vladimir Poutine. Et nos amis en Russie sont des opposants à Vladimir Poutine. Un certain nombre d'entre eux ont fait des années de prison. Voilà, la situation est extrêmement claire. Maintenant, on a un désaccord, en effet, sur comment on clôt le plus rapidement cette guerre. Et moi, je pense que le meilleur moyen pour que les armes se taisent, en effet, c'est la solution et l'arme
diplomatique. Alors, on va avancer. Et je vous donne le temps de boire un verre, parce que j'ai l'impression que vous en avez un grand besoin. Est-ce que cette stratégie de la paix, puisque c'est votre stratégie, cette fois-ci on l'a bien compris, vous l'appliquez aussi pour le conflit au Proche-Orient? Est-ce que vous demandez aux Palestiniens et aux Israéliens de discuter et donc de s'installer autour d'une même table pour négocier?
Bien sûr, il faut qu'ils se retrouvent autour d'une même table, d'abord pour avoir un cessez-le-feu. Vous le voyez, c'est la même approche. Dans l'immédiat, il faut que le gouvernement de Benjamin Netanyahou arrête de bombarder de manière indiscriminée le peuple gazaoui. Je vous l'ai dit un peu plus tôt, il est mort autant d'enfants en 4 mois qu'en 4 ans dans l'ensemble des conflits internationaux. 4 mois à Gaza, autant qu'en 4 ans au niveau international. Et aux tirs indiscriminés, aux blocus de la bande de Gaza, où on a plus de 2 millions de personnes qui sont prises au piège, privées d'eau, d'électricité, de nourriture, se rajoute la famine. La famine devient une arme de guerre à Gaza.
Alors, et le responsable y porte un nom. Comment la France doit-elle s'y prendre pour imposer à Netanyahou et aux États-Unis?
De deux manières. Là aussi, la voie diplomatique de la France doit être majeure. D'abord, en appelant à un cessez-le-feu clair, permanent et immédiat. Le président de la République a mis un peu de temps à l'appeler, et maintenant, on était bien seul au Parlement européen à le demander initialement. Moi, j'ai déposé une 15aine de fois un amendement au Parlement européen sur le sujet, et enfin, il a été adopté. Donc, de la même manière, le Parlement européen a appelé à un cessez-le-feu. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pas suffisant d'appeler à un cessez-le-feu, ça ne suffit pas de dire. Il faut agir. Et pour agir, on a 2 outils. Au niveau européen, je propose de suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Il y a des clauses de droits humains qui existent dans cet accord. Il n'y a aucune raison qu'il soit maintenu. Et deuxième chose, l'Union européenne et les États européens se rendent complices de la guerre à Gaza quand ils envoient des armes au gouvernement israélien qui permet de frapper la population civile gazaoui. Et donc, il faut un embargo immédiat sur les armes. Là aussi, je regrette que la France n'ait jamais rien dit à ce sujet et qu'au Parlement européen, je sois la seule à déposer des amendements sur le sujet. Vous le voyez, la paix ne peut pas être à géométrie variable. Il faut aussi que les armes cessent et se taisent. On a face à nous un carnage. La Cour internationale de justice, puisqu'on parlait de droit international, a parlé, elle aussi, d'un risque de génocide, a enjoint Israël à des mesures conservatoires qui n'ont pas été appliquées. Et donc, moi, je ne veux pas faire partie de cette génération qui va connaître un génocide qui se déroule sous nos yeux. Et on va rester comme ça, les bras croisés.
Manon Aubry, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi de mettre sur votre liste aux européennes, en 7e position, Rima Hassan. Rima Hassan, qui est une militante, une activiste palestinienne, elle est toujours présentée comme ça. Elle suscite beaucoup de polémiques. On l'a dit, proche des idées du Hamas.
C'est pas vrai.
On explique qu'elle serait farouchement opposée.
Je finis
ma question, pardonnez-moi. Okay. Hein, mais, et puis après, vous reprenez tout ce que vous voulez, mais je vais essayer.
Non, je vais les noter.
J'ai dit, on l'a dit, j'ai pas dit que je la disais, j'ai dit on l'a dit, proche des idées du Hamas. Mmh. On explique qu'elle serait farouchement opposée à une solution à deux États. Est-ce que vous assumez tout cela, Manon Aubry ?
J'assume sa présence sur ma liste, mais pardonnez-moi, au bout d'un moment, les caricatures et les calomnies sur sa position, franchement, stop, ça
suffit. Alors allons-y.
Donc, intéressons-nous, si vous intéressez à Rima Hassan, et j'espère que vous intéresserez à chacune et chacun des candidats de ma liste. Rima Hassan, vous l'avez dit, est une franco-palestinienne, est une spécialiste en droit international. Elle a créé un observatoire sur les réfugiés, et je suis fière qu'elle soit présente sur ma liste. Parce que non, Rima Hassan n'est pas proche du Hamas. Précisément parce qu'elle est palestinienne et qu'elle sait le mal qu'a pu faire le Hamas au peuple palestinien. Elle a fait une interview cette semaine dans 20 minutes, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la lire. Elle dit, et ce sont ses mots, et je veux les citer très précisément, « Si on peut agir politiquement au Parlement européen, il faut tenter de sauver un État palestinien aux côtés de l'État israélien. » C'est pour répondre à la question sur les deux États. Et elle dit sur le Hamas a recours à un mode opératoire qui est terroriste. Voilà, elle sait le mal qu'a fait le Hamas avec les Arabes.
Sur la deuxième partie, sur le fait qu'elle veuille...
Elle dit très clairement qu'elle est pour défendre une solution à deux États, dans le respect du droit international et des résolutions des Nations Unies. Maintenant, je vais vous dire la cabale qu'elle a subie. Je dis pas que c'est vous qui l'avez fait, mais qu'elle l'a subi de la part de l'extrême droite, de certaines calomnies qui ont été reprises.
Ah, ça a été, au bout d'un excusez-moi, moment, il y a eu des critiques à gauche et je pense qu'il y a eu aussi un
mais je regrette que des camarades à gauche, parce que pour moi, à gauche, nous n'avons que des camarades, je regrette que des camarades à gauche
pour la paix,
soient
a dit
tombés.
Fabien Roussel, notamment.
Eh bien, je regrette que, en faisant cela, Fabien Roussel tourne le dos à l'histoire du Parti communiste qui a toujours défendu la cause palestinienne, qui a toujours défendu les peuples opprimés, qui a toujours défendu la paix au Proche-Orient. Je le regrette et je suis sûre que nos amis communistes ne sont pas d'accord avec les paroles de Fabien Roussel et ne représentent pas le Parti communiste.
On est d'accord que si vous l'avez choisi ici et maintenant pour la mettre sur votre liste, c'est bien pour envoyer un signal. Et on est bien d'accord aussi sur le fait qu'elle n'a pas une personnalité qui est neutre. Elle a certes, contrairement à ce que certains reprochent, elle n'a pas validé le terrorisme, mais elle a considéré que dans certains cas, le terrorisme elle n'a pas condamné l'attaque du Hamas du 7 octobre.
C'est faux.
Elle laissait entendre qu'il pouvait être légitime de se défendre de cette façon.
Madame Saint-Cricq, pour reprendre dans l'ordre, elle a condamné les attaques du 7 octobre dès le 7 octobre. Bon, d'ailleurs, chacune et chacun pourra retrouver en disant très clairement que c'était des attaques qui étaient terroristes. Ça, c'est sur la première chose.
Je viens de vous dire, le mot terroriste est prononcé.
Mais elle les condamne. Légitimité... Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Ensuite, sur la deuxième chose, elle a été interrogée dans une autre interview, d'une interview qui a été coupée, où elle parle de deux choses différentes. Elle parle d'une part de la légitimité de l'action à résister en cas de colonisation qui est reconnue par deux résolutions du droit international. Et donc là, oui, elle dit qu'il y a une légitimité à résister. Elle ne parle pas spécifiquement de l'action du Hamas. Elle dit qu'il y a une légitimité à résister. En revanche, oui, le Hamas a mené des actions terroristes et oui, elle condamne les actions du 7 octobre. Et ensuite, pour revenir sur votre premier point, vous avez dit on va envoyer un signal. Le signal qu'on va envoyer, c'est celui qu'on défend la paix. Par contre, je ne suis pas d'accord.
Bah, c'est pas
je ne suis pas d'accord.
Il y a un signal électoral.
Je ne suis pas d'accord avec les sous-entendus de
vous adressez aux jeunes
électoralistes de résumer
qui
les quartiers
activement
populaires ou les
la cause palestinienne.
C'est,
et effectivement,
c'est manquer de respect pour Rima Hassan, qui est une grande juriste en droit international. Vous aurez l'occasion de la découvrir, et je le souhaite au Parlement européen si elle est élue. On va résumer.
Mais la politique, c'est du calcul
personne,
stratégique aussi, Manon Aubry. Vous n'êtes pas naïve.
Il y a des gens sincères qui défendent des combats sincères. Elle a pris la parole hier à notre convention, à notre lancement de campagne. Écoutez-la. C'est une voix qui a été très acclamée et c'est une voix qui notamment prend position plus largement et qui l'explique très bien sa démarche dans son interview à 20 minutes. La raison de son saut en politique face à la montée de l'extrême droite, la stigmatisation de l'étranger, le pacte asile-immigration en Europe qui est la loi Darmanin bis version européenne et qui veut globalement construire des murs aux frontières de l'Union européenne, elle explique tout ça. Et vous voyez à travers elle, je me retrouve moi il y a 5 ans qui avait hésité à m'engager en politique. La France Insoumise était venue me chercher, me proposer d'être tête de liste. Je travaillais dans le monde associatif. Je travaillais pour l'ONG Oxfam sur les questions d'inégalité et d'évasion fiscale. Et pour être très honnête avec vous, j'avais beaucoup hésité à 5 ans. Parce que je me disais que finalement, c'était quelque part plus confortable de travailler dans le secteur associatif, moi sur mon sujet, c'est la même chose pour Rima sur son sujet, que d'aller affronter la violence, les caricatures, dès qu'on met un pied dans le monde politique. Et Rima m'a dit, bon bah tu m'avais prévenu, j'ai été servie. Et je veux dire à Rima et à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent, oui, la politique, c'est pas un truc de calcul électoraux, c'est pas un truc... admettez qu'il y a des gens, sincères face à vous,
mais bien c'est sûr,
qui sont mus par la révolte du monde dans lequel on vit, qui sont mus par la révolte du sacrifice de nos services publics, qui sont mus par la révolte face aux accords de libre-échange au niveau européen. Ouais, franchement, vous avez face à vous une militante sincère et qui se dit parfois, qu'est-ce que tu allais faire dans cette galère?
Et en fait, vous n'avez pas un représentant de la gauche pacifiste israélienne qui aurait la double nationalité sur votre liste. Vous savez très bien que ça ferait très mauvais effet.
En l'occurrence, si l'opportunité nous en était donnée.
Mais il y a un camp de la paix en Israël.
Il y a un camp de la paix en Israël. Et donc, pourquoi pas?
Et pourquoi vous avez mis Jean-Luc Mélenchon? Pourquoi vous avez besoin de cette figure tutélaire au-dessus de vous, mais Manon Aubry? Vous avez peur toute seule?
Là aussi,
c'est l'avant-dernier de la liste 80e.
Pourquoi on ne pose pas cette question à Jordan Bardella s'agissant de Marine Le Pen?
On lui pose
parce que je suis une
absolument
femme.
Absolument pas.
Et qu'il y a la figure tutélaire de l'homme derrière.
Franchement,
j'ai lu par exemple une partie du traitement médiatique de notre convention d'hier et notamment l'article du Monde qui ne c'était même pas mon intervention et j'invite tout le monde à regarder notre convention hier. Non, Jean-Luc Mélenchon est là pour donner de la force, pour pousser en quelque sorte la liste.
Ce qu'on a entendu hier, c'était la peur de l'abstention, une volonté de mobiliser. Ouais. Vous partez...
Mais ça devrait être un enjeu qui concerne tout le monde. Une élection dans laquelle vous avez un électeur sur deux qui ne se déplace pas, sans compter les 12 millions de personnes qui ne sont pas inscrites ou mal inscrites sur les listes électorales, ça devrait mettre en colère n'importe quel démocrate. N'importe quel démocrate devrait se dire « c'est pas normal, il y a un problème dans notre démocratie ». Donc on ne devrait pas être les seuls à s'en soucier. Je suis surprise en général qu'on soit les seuls à en parler. Et oui, si les gens qui ont voté pour nous en 2022 à l'élection présidentielle et aux élections législatives ne se déplacent pas, oui, on a des chances de faire un mauvais score. S'ils se déplacent, on a des chances de faire un bon score. Donc moi, je dis, ne leur faites pas le cadeau de leur abstention.
Pourquoi ils ne se déplacent pas? Pourquoi ils ne se déplacent pas?
Parce que les gens ont compris. S'il vous plaît, mesdames, pensez aux auditeurs, aux oreilles des auditeurs.
Parce que les gens ont compris que dans la 5e République, et je ne leur fais pas le reproche, on est pour changer de République. Ils ont compris que l'élection qui donnait le plus de pouvoir en France, c'est l'élection présidentielle.
Raison pour laquelle
le taux de participation est plus élevé aux élections présidentielles que aux autres élections. Notre enjeu, c'est de dire deux choses. La première, c'est que pour nous, l'après-Macron, il commence dès le 9 juin. Dès le 9 juin, va se dessiner un paysage politique dans lequel soit on aura l'extrême droite fortement en tête et devant, qui va dessiner avec son agenda raciste, anti-droit des femmes, xénophobe et en plus absolument libéral sur le plan économique qui ne défend jamais les intérêts des travailleurs, soit on a une gauche qui propose une alternative. C'est la raison pour laquelle moi je vais continuer à me battre sur la base du programme de la NUPES pour offrir cette alternative. Alors. Et la deuxième chose, c'est qu'au Parlement européen, on a besoin de combattants. Moi, je préside un groupe au Parlement européen, par exemple, qui n'a jamais voté des accords de libre-échange. Aucun de mes concurrents ne peut en dire autant. On a gagné des victoires au Parlement européen. Je termine juste là-dessus et promis, après j'écoute votre question. À quoi ça sert, et je veux le dire pour convaincre les gens, à quoi ça sert des députés au Parlement européen? Ça sert par exemple, cette semaine on n'a eu pas une, mais trois victoires. Une directive européenne sur les travailleurs des plateformes pour protéger les travailleurs ubérisés, travaillent pour Uber, Deliveroo, leur donner un statut, une protection sociale, une victoire obtenue par ma collègue Leïla Chaibi. Deuxième victoire, une directive européenne sur le devoir de vigilance pour que les entreprises multinationales qui violent les droits humains comme Chine ou Amazon dans leur chaîne de production soient rendues responsables. Et troisième victoire, une autorité éthique indépendante pour que, enfin, toutes les pratiques de corruption au Parlement européen, il y a un cadre indépendant pour les contrôler. Donc on gagne des choses, des députés insoumis, ça sert à quelque chose.
Ne parlez-vous pas de ça dans les meetings hier?
Vous avez écouté mon meeting?
J'ai écouté votre meeting hier et j'ai écouté votre intervention. Mais...
C'est un meeting quand même très national, plus que...
Celle de Jean-Luc Mélenchon également.
Faites le résumé de mon intervention pour ceux qui ne l'ont pas suivi.
Parce que ma question n'est pas celle-là. Ma question...
Vous n'en parlez pas, j'en ai parlé.
Non. Jean-Luc Mélenchon...
J'ai parlé d'austérité, de libre-échange...
Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, avec une stratégie qui n'est pas si éloignée que celle de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen, c'est le top départ de la présidentielle. Et vous venez de le dire vous-même en disant, à partir du 9 juin, ce qu'on a en ligne de mire, c'est la présidentielle. Ce qui peut sembler paradoxal pour un parti qui considère que la 5e débloque complètement en mettant un chef de l'État omnipotent et qui est pour une 6e République. Donc, en gros, c'est votre bonne élection, la présidentielle, pas les européennes. Mais ça peut sembler paradoxal que vous disiez, on n'en parle pas, alors que c'est vous-même qui êtes déjà en anticipation.
Alors, pour vous répondre, d'abord, moi, je suis intervenue 30 minutes hier en clôture du meeting. J'ai parlé, chacun pourra vérifier, des accords de libre-échange, dont je le disais, on est les seuls à s'être opposés. J'ai parlé des règles budgétaires européennes, de l'austérité qui sacrifie nos services publics.
Mais c'est bien de répondre aux questions.
Notre protection sociale. Donc, en l'occurrence, je suis la tête de liste pour les élections européennes. Donc, n'hésitez pas à regarder ce que je raconte parce que je vais porter la parole de mon mouvement politique pour ces élections européennes. Et par ailleurs, oui, j'assume de dire, comme je viens de le dire à l'instant, que l'après-Macron commence. Parce que quoi ? Parce qu'au soir du 9 juin, imaginez, faites le tableau, je suis sûre vous allez faire une émission spéciale à cette occasion, et vous allez avoir un bâton très haut, celui de l'extrême droite à plus de 30%. Quelle va être la lecture politique ? Eh bien, Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. Et moi, je ne me résous pas à ce que l'extrême droite soit aux portes du pouvoir. Je vous l'ai dit, ça va être un carnage. Quand on a Marine Le Pen qui se cache sur le droit à l'avortement en France, en réalité, Jordan Bardella vote systématiquement contre le droit à l'avortement en Europe. Quand il se pose au côté des agriculteurs, en Europe, ils votent pour la politique agricole commune aux côtés des macronistes. Quand ils se posent aux côtés des travailleurs ou des classes populaires en Europe, ils votent contre la taxation des super-profits et contre le blocage des prix. Voilà la réalité de l'extrême droite. Donc oui, j'assume de dire qu'il y a une dimension nationale dans ce scrutin. Il faut que les gens qui nous écoutent le comprennent bien parce que ça va envoyer un message politique
jamais
et notre avenir se construit.
Jamais la dimension nationale n'a été aussi intégrée à la dimension européenne. Et là où on vous entend... Là où on ne vous entend pas, c'est est-ce que vous êtes comme François Ruffin pour finalement construire une Europe de la défense ? Est-ce que vous pensez que l'Europe, est-ce que l'Europe aujourd'hui doit penser à sa propre souveraineté ? Est-ce que face à la Russie, Trump qui risque de se désengager, est-ce qu'il faut absolument penser maintenant à une souveraineté européenne ? Quel est votre point de vue ?
Très rapidement, je vais juste pour finir, être uniquement sur la question souveraineté, pour circonscrire la question. La souveraineté, je vais vous dire, l'Union européenne l'a complètement vendue ces dernières années. Quand, pendant la crise du Covid, on était incapable de produire les masques dont nous avions besoin. Nous ambitionnons de faire au moins 50% d'énergie renouvelable, un objectif qui est insuffisant. Et nous avons en France zéro entreprise de production pales d'éoliennes et seulement deux entreprises de panneaux solaires. Je vous donne cet exemple pour dire que oui, on a bradé notre souveraineté. On a bradé notre souveraineté avec plus de 40 accords de libre-échange votés ces dernières années. On importe la moitié des fruits et des légumes qu'on consomme en France. Donc, on a bradé notre souveraineté en matière industrielle, en matière agricole, à cause de deux choses, les accords du libre-échange et ce raisonnement cette fois
parler
dans le marché. L'avenir que je propose, c'est une politique de réindustrialisation. D'une part, de mettre un terme aux accords de libre-échange, de ne plus en voter un, et je vous le dis, voter pour ma liste le 9 juin, c'est la garantie qu'il n'y aura pas une seule voix dans mon groupe pour les accords de libre-échange, contrairement à 100% des autres listes. Et deuxième chose, une vraie politique d'investissement avec une planification pour en effet réfléchir, construire ce dont nous avons besoin. Par exemple, des usines de panneaux photovoltaïques. Je finirai sur cet exemple. Je suis allée visiter une usine qui s'appelle Photowatt, à côté de Bourgoin-Jallieu, et qui produit des panneaux solaires qui n'arrivent même pas à les vendre, alors qu'ils sont détenus par EDF. Et à 2 kilomètres de là, il y a une usine, une grosse usine publique.
Faut-il bâtir une Europe de notre propre sécurité, comme le dit François Ruffin ?
Qui a des panneaux solaires qui viennent essentiellement de Chine. Voilà le paradoxe dans lequel on veut.
Vous pouvez répondre à ma question.
Et sur la défense.
Voilà.
Et sur la défense.
Je prends la citation de François Ruffin dans Le Monde hier. Bâtir en Europe notre propre sécurité, notre dissuasion. Voilà.
Donc, sur la défense, François Ruffin n'appelle pas à une Europe de la défense telle qu'elle est posée à l'heure actuelle par le projet européen qui est, elle, aligné dans les pas de l'OTAN, ce qui est, je pense, un danger qui plus est à l'heure où Donald Trump risque de revenir au pouvoir aux États-Unis, puisque l'OTAN est essentiellement dirigée par les États-Unis. États-Unis. Je pense qu'il faut une coopération en matière industrielle et c'est exactement ce que François Ruffin indique parce qu'on le voit avec la guerre en Ukraine, c'est aussi notre capacité à produire suffisamment d'armes qui est remise en question. Mmh. Et donc oui, il y a une coopération industrielle en matière militaire. En revanche, en matière diplomatique, on voit qu'on est très loin du compte quand, dans le conflit à Gaza et au Proche-Orient, il y a eu des positions extrêmement différentes d'un État à l'autre.
Manon Aubry, je voudrais qu'on parle un petit peu d'économie, parce que je l'ai annoncé
avec
en
plaisir.
Introduction et c'est important. Où trouver 3 000 milliards d'euros? C'est le montant de la dette. Je le disais effectivement en introduction. Bruno Le Maire s'exprime ce matin dans la presse, lui aussi. Où trouver les économies et quelles sont les dépenses qu'il faut absolument réussir à réduire, selon vous?
Vous aurez remarqué que, d'un côté, Bruno Le Maire vide les caisses de l'État, il supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, il fait 200 milliards d'euros d'aide sans contrepartie aux entreprises, et après, il vient devant vous en disant « les caisses sont vides, il faut sacrifier vos services publics, donc on va faire des économies de nouveau dans l'hôpital public, dans l'école publique, dans la protection sociale, c'est le reste à charge sur les médicaments, par exemple, qui va augmenter ». C'est des choses qui s'ajoutent et qui, à la fin, vont surtout prendre dans le porte-monnaie, d'une part, des plus pauvres et d'autre part, qui ne sont pas efficaces.
Qu'est-ce que vous proposez ?
Et j'y arrive juste, mais je termine sur cet exemple parce que je le trouve assez symptomatique. Quand vous augmentez d'un euro le prix de chaque boîte de médicaments et de chaque consultation médicale, qu'est-ce qui va se passer ? Des gens vont renoncer à soigner parce qu'ils vont dire que ça coûte trop cher. Et en renonçant à soigner, du coup, on va moins bien prévenir les maladies et les gens vont se retrouver à aller engorger les urgences quand ce sera trop tard. Urgences dans lesquelles on meurt en France en 2024. Je pense à ce jeune qui s'appelle Lucas, dans un hôpital à côté de hier, qui est mort d'une septicémie parce qu'il n'a pas été pris en charge.
Qu'est-ce que vous proposez ?
Voilà l'état de nos hôpitaux publics. Mmh. Moi, ce que je propose, c'est deux choses. D'abord, de trouver les recettes là où elles sont. Là où elles sont, quand on a en France le record d'Europe du nombre de millionnaires, quand on a en France le record du montant de dividendes versés aux actionnaires du CAC 40, 100 milliards d'euros. Vous savez, quand je travaillais à Oxfam, j'analysais les versements de dividendes aux actionnaires d'année en année. Et je me souviens, d'année en année, je disais, c'est un nouveau record. Et ben, depuis 5 ans, c'est de nouveaux records qui s'accumulent. Et de prendre l'argent là où il est, d'une part. Et c'est pour ça que je propose, à l'échelon français comme à l'échelon européen, à la fois un impôt de solidarité sur la fortune, d'une part, et une taxation des super profit d'autre part. Je pense notamment aux entreprises dans le secteur agroalimentaire. On a tous fait le constat, quand on fait nos courses, le prix des denrées alimentaires, des pâtes, du riz, des œufs, etc., a augmenté en moyenne de 20%. À l'autre bout de la chaîne, les agriculteurs ont vu leurs revenus baisser. Parce qu'au milieu, il y a des agro-industries comme Lactalis qui ont vu leurs profits augmenter de 70%. Il faut bloquer ces profits. Donc oui, on a la possibilité d'avoir des moyens pour faire les investissements qui sont
Est-ce que l'État-providence n'est pas devenu un problème à régler ? Est-ce qu'il n'est pas trop lourd ?
Précisément, ils sont en train de tuer l'État-providence. Voilà ce qu'est en train de faire Bruno Le Maire, tuer l'État-providence avec les nouvelles règles budgétaires européennes, les 10 milliards d'euros de coupes cette année, 20 milliards l'an prochain, c'est l'équivalent de 700 000 postes d'enseignants ou d'infirmiers. Moi, je refuse cette saignée sociale, ce massacre à la tronçonneuse, j'ai pas d'autre mot. Et c'est pour ça, oui, c'est un massacre social à la tronçonneuse, et c'est pour ça que je dis que les élections du 9 juin doivent aussi être un référendum contre ce nouveau pacte d'austérité européen qui n'a pas été adopté avec l'approbation des Français. Je veux dire aux Françaises et aux Français qu'on va se battre coûte que coûte et seul s'il le faut pour défendre nos services.
Et pour finir, ces élections européennes, c'est quoi ? C'est une mise sur orbite de Jean-Luc Mélenchon ? Ça sera lui le candidat de
l'élection présidentielle, c'est dans très loin, vous savez, en 2027. Donc moi, mon objectif, c'est d'abord le 9 juin qui arrive. D'accord. Et j'espère qu'on pourra se mobiliser. Mon objectif, c'est, d'arriver en finale face à l'extrême droite. J'aime bien le sport.
Par rapport à vos précédentes scores, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'amélioration ?
Bien sûr qu'on fera mieux. Bien sûr qu'on fera mieux. Et on est dans une situation politique très différente. Et voyez, moi, ce que je vais défendre, et je terminerai là-dessus, c'est ça. Ce programme de la NUPES qu'on a élaboré il y a près de 2 ans, qui nous a permis de faire élire 151 députés à l'Assemblée nationale, je vais continuer à le défendre coûte que coûte. Non, il n'est pas en miettes. Vous avez face à vous une défenseuse ardue, et je suis sûre qu'il y a des...
Ce n'est pas le cas de Jean-Luc Mélenchon.
Non, lui aussi. Non, on a proposé une liste commune aux élections européennes, Jean-Luc Mélenchon avec, donc c'était la preuve qu'on était capable, qu'on était tout
il
à fait disponible
le 2 décembre
et disposé
dernier
à le faire. Et je veux lancer ici un appel à votre micro à tous les orphelines et les orphelins de la NUPES, à tous les électeurs qui m'entendent et qui se disent Ah, non, franchement, attendez, on va encore y aller diviser face à l'extrême droite. Eh bien, je leur dis que oui, nous continuerons à défendre ce programme de la NUPES, que nous avons proposé une liste commune et que, quoi qu'il arrive, avec Damien Carême, député écologiste qui est présent sur ma liste, avec Arash Saïdi, coordinateur de Génération, le parti de Benoît Hamon, nous allons ensemble défendre l'héritage du programme de la NUPES.
Vous voulez défendre, une toute dernière question.
Ils ne parlent avec vous s'ils ne sont pas d'accord. Parce que, franchement, faire des listes communes,
ils étaient d'accord il y a deux ans. Et on le met à la poubelle. Et eux, certains veulent. Vous voyez,
une dernière question, s'il vous plaît, mesdames.
Le programme de la NUPES ensemble, moi je vais en défendre la flamme.
Je suis socialiste pour savoir. Je vous demande juste, en termes d'élection présidentielle, pour revenir sur Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il y a un jour.
C'est dans trois ans, madame Saint-Christ.
Est-ce qu'il y a un jour où il y aura une élection à l'intérieur de LFI pour désigner soit le chef, soit le candidat? Quelque chose qui se passe partout ailleurs.
Réponse rapide et on passe au livre de la semaine, s'il vous plaît.
Je vous propose qu'on fasse un question politique le 17 juin après les élections européennes et on parlera de la suite.
La présidence
et on parlera en long, en large et en travers de l'intérieur de la France insoumise. J'ai aucun problème. En attendant, moi, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'on ne peut pas se résoudre au duo entre l'extrême droite et Emmanuel Macron et à tous ceux qui sont de gauche et qui veulent défendre précisément les services publics, la hausse des salaires, ce programme-là. Et moi, je vais, Madame Fraisseuse, je vais continuer. Il y a un chapitre entier qui concerne l'Union européenne dans le programme de la NUPES.
Donc alors, c'est la grammaire
aux électeurs il y a deux ans quand on a fait ce programme, soit on l'a fait avec sincérité, c'était mon cas, je l'ai fait avec sincérité et je me réjouissais de mener cette campagne avec tous mes camarades à gauche, et mes camarades à gauche, il y en a encore beaucoup dans le pays, et je leur dis, venez nous aider, ne restez pas chez vous, et venez nous aider à donner à la force au programme de la NUPES pour aller le plus loin possible à cette élection.
C'était sportif.
Ouais,
merci.
Sont bien, j'aime bien
Marc
sport.
Aubry, alors vous restez tout de même avec nous. Il est temps d'accueillir, avec retard, notre second invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Question politique. Karine Bécard.
J'espère que vous allez mettre un peu de calme sur ce plateau. Bonjour Yannis Roeder.
Bonjour.
J'en suis pas certaine. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de questions politiques. Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire, professeur dans un collège classé en zone d'éducation prioritaire, en ZEP, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes également directeur de l'Observatoire de l'éducation à la Fondation Jean Jaurès et membre du Conseil des sages de la laïcité. Voilà pour les présentations. Et puis surtout, vous publiez un livre, c'est la raison pour laquelle on vous a invité, qui vient de sortir chez l'Observatoire, Préserver la laïcité, c'est le titre de cet ouvrage que vous avez coécrit. Je souhaite effectivement dire qu'il y a également Alain Sexig qui a œuvré à vos côtés, un inspecteur d'académie, et Emile Hansen qui est le collaborateur parlementaire au Sénat. On a fêté cette semaine, c'est important, vendredi précisément, les 20 ans d'une loi, une loi importante, une loi qu'on a appelée la loi sur le voile, qui a interdit le port du voile à l'école et de tous les signes ostentatoires. C'est la loi du 15 mars 2004 et 20 ans après, vous avez décidé donc de faire le point et étonnamment, vous écrivez qu'elle fonctionne plutôt bien, cette loi. Vraiment, Yannis Roeder, on n'a pas de problème en France avec la loi sur le voile.
Je ne crois pas qu'on ait des problèmes en France avec... Alors d'abord, ce n'est pas la loi sur le voile, c'est la loi sur les signes manifestant une appartenance religieuse. Parce qu'une loi, elle a une portée générale, elle ne vise pas une population en particulier et encore moins une certaine obédience. En 2004, la loi a permis d'apaiser, quand elle a été votée, elle a apaisé les tensions qui existaient dans les établissements scolaires. Tous les enseignants l'ont dit, les chefs d'établissement ont également salué la loi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, 92% des enseignants soutiennent la loi du 15 mars 2004. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui cherchent à fracturer la loi et qui, bien sûr, cherchent d'une manière ou d'une autre, et on l'a vu avec l'offensive qui a émergé à l'hiver 2021-2022.
Avec les abayas.
Avec ce qu'on a appelé, ce qui s'appelle les abayas, qui effectivement relevaient de cette offensive. Je dis offensive parce que c'était relayé par des prédicateurs et des entrepreneurs identitaires et religieux sur les réseaux sociaux. Il y a eu des fuites dans la presse de notes des renseignements territoriaux ou généraux et qui montraient bien que l'on fût à Lille, à Grenoble ou à Bordeaux, on avait les mêmes éléments de langage par ces jeunes filles. Et donc, il y avait là, effectivement, et il y a toujours une partie, notamment de la jeunesse, qui a du mal à comprendre cette loi.
Voilà, on parle de ceux qui attaquent cette loi. Il n'y a pas que ça. Il y a effectivement cette jeunesse aussi française qui n'aime pas cette loi sur le voile. Je vais la résumer malgré tout comme ça. Ça va plus vite, pardonnez-moi.
Dommage quand même, parce que c'est pas que ça. Hein.
On l'a bien compris. Non, mais vous l'avez bien rappelé. Mais
les jurisprudences sur le
mais qui la trouve très intolérante en fait cette loi.
Pardon.
Qui la trouve très intolérante en fait cette loi vis-à-vis de.
En fait, alors vous avez raison. Vous avez une partie de la jeunesse qui conçoit cette loi comme uniquement une question liée à l'interdiction. Quand ceux qui étaient les membres de la commission Stasi ont proposé cette loi en disant qu'il faut que ce soit une loi de liberté. Est-ce qu'elle est en réalité, puisque les membres de la commission Stasi ont décidé de proposer le vote de cette loi, ce que le président Jacques Chirac à l'époque a accepté, dans le but de protéger les élèves, quels qu'ils soient, des pressions qu'il pouvait éventuellement subir pour conformer à tel ou tel rite, à tel ou tel dogme. Parce que l'école de la République accueille des enfants, des élèves, qui sont des citoyens en formation et qu'ils ont le droit, justement, de respirer à l'école.
Et de se construire, en fait.
Et de se construire de manière à acquérir leur autonomie, de manière à aller vers l'émancipation, c'est-à-dire la capacité de penser par soi-même. Et libre à eux, et c'est très important, libre à eux, une fois que leur scolarité est terminée, eh bien, d'épouser, s'ils veulent, le dogme qu'ils veulent et de retourner à ce qu'ils pensaient les déterminer en premier lieu.
Alors, j'aimerais quand même revenir sur ce qui s'est passé récemment dans un lycée parisien, le lycée Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement de Paris. Trois jeunes filles, dont une majeure, sont arrivées voilées dans une cour d'école. Le proviseur est intervenu, le ton est monté, il y a eu une altercation, il y a même eu un dépôt de plainte. Est-ce que les élèves dans cette école ont défendu ces trois jeunes filles? Ils ont fait grève pour elles. Est-ce que vous avez compris là ce qui s'est passé ou est-ce que vous avez été surpris?
Non, je n'ai pas été surpris parce que nous savons aujourd'hui que les réseaux sociaux du fait de leur viralité, provoquent des emballements qui peuvent arriver à des extrémités extrêmement graves. On l'a évidemment vu et on pense tous à l'assassinat de Samuel Paty. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette jeune femme qui est en BTS, mais c'est la loi qui s'applique au lycée, même si on est dans le supérieur, le fait en plein milieu d'année. Non pas au début de l'année où on pourrait se dire, bon, elle a oublié, voilà, ça peut arriver. Mais là, elle le fait en plein milieu d'année en sachant exactement ce qu'elle fait en réalité. Donc c'est une tentative de peut-être déstabilisation. Je ne dis pas que tout ça a été télécommandé.
Mais ce qui est intéressant, c'est ces jeunes qui ont décidé de les soutenir. C'est ces élèves.
Oui, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on est sur une idée, si vous voulez, très nord-américaine, de la tolérance entre guillemets. C'est-à-dire que dans le système américain, il n'y a aucun moyen, aucun outil qui vient perturber ce qui vous détermine en premier lieu. L'école de la République et les républicains du 19e siècle n'ont pas pensé la République comme cela, et encore moins son école. Justement, ils offrent cette possibilité de sortir de ce que l'on est ou de ce que l'on pense être pour après se déterminer soi-même. Mmh. Et c'est cela que les jeunes qui sont aujourd'hui abreuvés du soft power américain, disons-le très clairement, ont du mal à saisir. Mais quand vous travaillez avec eux, quand vous prenez le temps, je vous assure qu'ils le comprennent en réalité.
Alors je voudrais qu'on pose la question à Manon Aubry. Vous, cette histoire qu'on vient de rappeler, qui s'est passée donc dans ce lycée Ravel, qu'est-ce que vous en avez pensé?
J'ai pas suivi dans les détails cette histoire. Après, moi je reste une farouche défenseuse de cette loi et de la laïcité à la française, et qui marche plutôt bien. Je suis contente de l'entendre parce qu'elle est souvent un peu caricaturée, souvent assez mal comprise aussi. Je le vois avec ma casquette de députée européenne où la culture, la tradition de la laïcité est très différente dans les autres États européens. Et je souhaite juste que cette laïcité ne soit pas à géométrie variable quand le président de la République assiste à une messe ou fête Hanouka à l'Élysée. Voilà, on a un principe républicain de la laïcité dans l'espace public. Et ensuite, évidemment, chacun est libre de vivre sa confession de la manière...
Là, on parlait de l'école, donc...
Mais la laïcité, pour moi, c'est la forme que l'on donne au plus haut niveau de représentation
Est-ce que vous pensez qu'à l'école, il faut défendre la loi et qu'elle...
Bien sûr. Mais, enfin, moi, j'étais jeune quand cette loi a été faite, mais pour le coup, j'étais à l'école. Et je défendrai cette loi... La gauche l'a défendue à l'époque, et je suis contente de dire par des experts que finalement elle marche pas si mal et qu'il faut peut-être pas monter en épingle des conflits qui certes ont pu exister dans certains établissements mais qui globalement fonctionnent bien et dont on en tire un bilan positif.
Vous êtes pas tous d'accord quand même au sein de la France Insoumise sur ça?
Non, c'est pas vrai, toute la France Insoumise a toujours défendu la loi cette loi de 2005
ne pose pas un problème. Les filles qui se voilent ne posent pas un problème.
Mais les filles ont le droit de se
au sein des écoles, au sein des cours d'école.
C'est un signe d'émancipation extrême.
Et ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut. La question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on doit porter un signe ostentatoire religieux à l'école ? La réponse est non. C'est la loi, et je souhaite que la loi soit respectée. Je suis contente d'entendre qu'elle est bien respectée en France. C'est plutôt une bonne chose.
Yannis Roeder, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé cette semaine la création de cellules d'appui psychologique pour aider les enseignants qui peuvent parfois avoir peur.
Pédagogique,
qu'est-ce que j'ai dit ?
Psychologique.
Psychologique, pédagogique, pardonnez-moi, c'est exactement ce que j'avais écrit malgré tout, mais bon voilà. Qui peuvent avoir peur parfois d'affronter certains cours. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Est-ce que vous soutenez cette idée-là ?
Oui, ce qu'il faut d'abord remarquer, c'est que effectivement, ce que l'on voit aujourd'hui, et je crois que c'est ce qu'a souligné le Premier ministre, c'est qu'on a une montée des contestations des enseignements. Et d'ailleurs, cette montée des contestations, elle n'est pas le fait d'une partie, pour le dire très clairement, de jeunes Français musulmans. Elle est assez globale, c'est-à-dire que au nom justement de cette tolérance, il ne faudrait pas brusquer ou manquer de respect à une minorité ou à une autre. Voilà, c'est ce que disent les jeunes en général. Et donc, oui, je pense que c'est intéressant qu'il y ait ces cellules pédagogiques à l'extérieur peut-être de l'établissement, parce que parfois, vous savez, quand on est prof, c'est toujours difficile de dire à ses collègues, en tout cas, ça peut être difficile de dire à ses collègues, j'ai des soucis.
Merci à tous les deux. Merci Yannis Roeder. Le titre de votre livre, Préserver la laïcité aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous aussi.
Merci de l'invitation.
Manon Aubry d'être venue dans Questions politiques. Je vous dis évidemment à la semaine prochaine. D'ici là, excellente fin de week-end.